De l'autre côté de la musique, une émission proposée et présentée par Michel Giardella, avec des thématiques, des portraits qui se succèdent au fil des mois, et des compositeurs aussi qui reviennent devant le devant de la scène de notre antenne pour différents aspects. C'est ainsi que nous allons nous refocaliser. Bonjour Michel, tout d'abord, hein, quand même la convivialité, un minimum de politesse s'impose pour introduire cette émission. Effectivement, avec ce compositeur italien dont nous avons déjà réalisé plusieurs émissions, hein. Oui, le prêtre rouge, c'était son sobriquet. Oui. Je vous laisse le présenter. Et puis, effectivement, qu'est-ce qui donne l'attrait de ce grand compositeur italien aujourd'hui ?
Eh bien, on va parler du Vivaldi, du prêtre roux. Le prêtre roux qui était roux parce que dans toute sa famille, on était roux. Le père était roux, le frère était roux, les sœurs étaient rousses. C'est un caractère dominant. Donc, toute la famille était rousse. Et Vivaldi était bien sûr roux, donc il passait pas inaperçu dans une équipe de musiciens. Voilà, alors rappel de quelques dates, il était né en 1678 et il est mort en 1742, donc début du 18e siècle. Alors, bien sûr, son père, qui a été quelqu'un de très important pour lui, Giovanni Battista, Jean-Baptiste, était un barbier. Certainement un barbier de qualité, comme dirait Rossini, et c'était un barbier qui était amateur de violon. Mais il était plus amateur de violon que barbier, et progressivement, il avait été un peu embauché à l'église Saint-Marc pour jouer du violon, et il s'en sortait tellement bien que progressivement, il a joué un rôle principal. Et en même temps, bien sûr, il a formé son rejeton, Antonio. Antonio qui est parfaitement profité des leçons, puisque même certains moments, quand le père ne jouait pas à Saint-Marc, c'était le fils qui le remplaçait. Il avait 13-14 ans. Donc déjà, nous avions affaire à un virtuose. Alors, il y a quand même quelque chose à dire pour tout ça, c'est que nous trouvons dans une Venise qui commence à perdre sa puissance, qui perd sa puissance économique. Et elle est arrivée à un moment où, bon, progressivement, les Turcs sont de moins en moins dangereux. Et Venise perd de sa puissance économique. Et pour trouver de la richesse, eh bien, ils ont inventé le carnaval, qui durait quand même 2 à 3 mois. Hein. Oui. Bon, et oui, et toute la noblesse de l'Europe venait s'encanailler à Venise. Voilà. Et donc, à Venise, il y a des quartiers qui s'appellent quartier des tétés. C'était quoi? C'était le quartier où les femmes s'asseyaient sur les bancs devant les ponts et montraient leurs seins pour essayer d'aguicher le client. Donc, les mœurs étaient très, très libres. Mais bon, quand les princes, les rois, les barons, les ducs venaient à Venise, il fallait les occuper. Voilà, donc toute...
Avec ce principe d'anonymat des masques, ça joue aussi dans...
Oui,
pas tant que ça.
Oui,
ça... le fait de un peu...
Oui, c'était, slasher, c'était une façon très symbolique de se cacher, je crois. Oui, oui. Bon, mais enfin, bon, ça fonctionnait, etc., etc. Bon, c'était la Venise du carnaval. Alors, il y avait des prostituées, il y en avait énormément, mais il y avait toutes les catégories de prostituées. Hein. Il y avait les prostituées très riches qui n'avaient des activités qu'avec les rois, et puis il y avait une deuxième gamme de prostituées qui étaient plus, qui faisaient avec les riches, et puis il y avait les prostituées les plus vulgaires qui étaient à tous les coins de rue. Et la conséquence, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Et tous ces enfants, ben, on pouvait pas les élever, on les abandonnait. Et on les abandonnait où ? On les abandonnait à la Pietà. Ouais. Voilà, donc la Pietà, c'était un couvent de religieuses. Et la Pietà qu'on voit actuellement, elle est un peu plus tardive. L'église qu'on voit actuellement, elle est un peu plus tardive que celle qu'a connue Vivaldi. Elle a été reconstruite vers 1750 à peu près. Et donc l'ancienne Pietà avait été quand même parfaitement organisée pour l'accueil des enfants, il y avait ce qu'on appelle la scafetta. La scafetta, c'était une niche dans laquelle, quand l'enfant était né, eh ben, on l'entreposait dans la niche de l'église, et les gens, et après, on le récupérait, et l'enfant était élevé. Les enfants abandonnés donc étaient élevés quelques jours et ensuite étaient placés en nourrice à quelques kilomètres de Venise. Et le prêtre du secteur était responsable de cet enfant qu'il devait suivre. Et quand il avait 10 ans, uniquement les filles étaient ramenées à la Pietà. Alors, à la Pietà, on organisait les filles, on essayait de voir si elles avaient des compétences musicales. Et on essayait, celles qui n'avaient pas de compétences musicales, eh bien, elles faisaient tous les travaux des champs, les travaux d'entretien, le balayer, nettoyer, les épluchures, etc. Mais celles qui avaient la chance d'avoir quelques compétences musicales, alors là, c'était autre chose. Donc, Venise était organisée en... Donc, la Pietà était organisée avec 2 musiciens. Ce n'était pas Vivaldi le principal. Le principal, c'était le chef de chœur. Le chef de chœur était, c'est lui qui formait les voix, etc. Et Vivaldi, lui, avait essentiellement la responsabilité de l'orchestre et des apprentissages. Alors, pourquoi à Venise on a eu et en Italie on a eu un tel succès? Parce que les artisans étaient tellement bons, tellement brillants, qu'ils ont fait des violons extraordinaires. Hein. C'est l'époque des Guarnieri, des Amati, des Stradivarius, tout à Cremone. Hein. Ouais. Donc une fabrique. Donc l'outil était déjà à la disposition des musiciens. À Venise, c'était surtout les Guarnieri qui fournissaient Venise en violon. En violon et tous les instruments à cordes frottées ou à cordes pincées. Donc nous voilà à Venise, et donc à la Pietà, il a fallu trouver un jour, on avait trouvé Signori qui était le responsable, qui était un compositeur qui allait à Rome, qui voyageait beaucoup, mais qui était responsable, c'était le grand responsable de la musique à la Pietà. Mais c'était donc, comme je vous l'ai dit, le maître de chœur, le maître des chanteurs, et il avait un adjoint, qui avait été reconnu comme un très brillant violon, puisqu'on l'avait entendu jouer remarquablement à Saint-Marc, c'était donc Antonio Vivaldi qu'on avait recruté comme maître de musique. Alors Vivaldi, bien sûr, avait, pour, disons, s'en sortir, ils étaient quand même très pauvres, hein, les Vivaldi, hein, il le paiera plus tard, hein, c'était des gens très pauvres, et... pour s'en sortir, on le fit prêtre. Hein, il s'était fait prêtre. Alors bon, il y a toute la main, mais il y a une chose qu'il faut quand même ajouter qui sera importante vis-à-vis de sa vocation religieuse, c'est sa naissance. Quand il est né, on l'a tout de suite ondoyé parce qu'on pensait qu'il n'allait pas vivre. Il avait des problèmes respiratoires dès la naissance et il a été baptisé 2 mois après. Il avait été ce qu'on appelle à l'époque ondoyé, c'est-à-dire pensait que la mort allait l'emmener. Et ses difficultés respiratoires, certainement de l'asthme, l'ont suivi toute sa vie. Et d'ailleurs, dans sa vie, il avait arrêté de dire la messe parce qu'il disait qu'il n'arrivait pas à respirer. Bon. C'était cette fragilité de Vivaldi l'a suivi toute la vie, mais il s'en est servi aussi.
Oui, ça s'est joué un petit peu.
Il s'en est un petit peu servi. Bon, il avait quand même une vie très, très particulière. Alors, dans la partie que nous allons voir, c'était à la Pietà. À la Pietà, bon, il formait donc les musiciens et les musiciennes. Nous n'avons hélas pas l'inventaire des instruments qui appartenaient à la Pietà. Les filles, donc, de 10 ans à 16 ans étaient formées aux instruments. Et je vous propose quand même, pour un peu illustrer, nous n'allons pas faire que parler, pour illustrer l'un des premiers morceaux qu'a composé Vivaldi. C'est une sonate pour violon et basse continue. Et il y a, aussi bizarre que ça paraisse, la viole de gambe, qui est l'ancêtre du violoncelle. Mais Vivaldi, dès que les violoncelles arriveront, abandonnera la viole de gambe. Le violoncelle avait une autre puissance et une autre agilité musicale. Je vous propose cette sonate de Vivaldi, une des toutes premières œuvres qu'il a écrites.
Thank you.
pour ces sonates de Vivaldi, les premières compositions, Michel.
Les premières compositions de Vivaldi. Alors, on va reprendre un petit peu. Quand on avait trouvé un enfant dans la boîte de la Scafette.
De la Hospedale de la Pietà.
Là, voilà. Alors, Hospedale de la Pietà. La Pietà, c'est pas
la piété.
C'est pas la piété, c'est la pitié. C'est pas pareil.
On est bien d'accord.
Voilà. Donc, on commençait par faire chauffer un fer rouge et on mettait un P sur le pied ou le bras de l'enfant trouvé. Et ensuite, deuxième action, on prenait le grand livre et on lui attribuait un nom. Un prénom, simplement. Elle n'avait jamais de nom, les enfants trouvés de la Pietà. Et ainsi, plus tard, on les appellera, bien sûr, de leur prénom. Alors, il y avait des tas de prénoms, bien sûr. Il y avait, on dira par exemple, Prudenza, dal contralto. Prudenza, elle aurait du contralto. Mais elle n'avait pas de nom, qu'un prénom. Il y avait Adriana, du théorbe. Il y avait Antonina, de l'organiste, etc. Donc, ça a été très difficile à savoir qui elles étaient, parce qu'il y avait plusieurs qui jouaient du violon et plusieurs qui jouaient de l'orgue. Alors, ne pas les mélanger, ne pas les confondre, c'était très compliqué. Nous savons quand même, c'est pas très clair tout ce système de nomination. Mais enfin, quoi qu'il en soit, les filles à partir de 16 ans, qui avaient été bien formées par Vivaldi, jouaient un rôle musical important parce que, comme on le verra par la suite, aucun instrument les arrêtera, hein, que ce soit les violons, le contrebasse, violoncelle, corps, trompette, luth, sitar, tous les instruments seront joués. Donc, et Vivaldi avait justement la charge de ces instruments. Il y avait aussi la rubrique des choristes, hein, sous la direction de Signori, et ça a été un grand mouvement. Donc, à l'époque du carnaval, tout le monde allait assister à ces concerts, au concert de la Pietà. Alors, elles étaient dans le chœur de l'église, elles chantaient et elles jouaient, et les gens étaient derrière les grilles et les écoutaient. On a de nombreux témoignages, on a Claude de Brosse de Dijon qui avait voyagé, et il est allé en Italie et il a acheté à Vivaldi, il a trouvé que c'était drôlement cher, des partitions de Vivaldi qu'il a fait jouer plus tard à Dijon chez lui. Mais tous les rois, le roi de Danemark, le roi de Suède et surtout le roi de Saxe, et en Saxe, il y avait l'un des plus grands orchestres des musiciens les plus célèbres, qui se sont tous rendus à Venise pour écouter et découvrir ce que faisait Vivaldi.
Il y avait des représentations donc publiques, des concerts auxquels le public pouvait participer, assister.
Voilà, alors comme pour faire des revenus, les gens, on leur offrait des chaises qu'on faisait payer, bien sûr, ce qui faisait des revenus à la Pietà. Parfois, dans certains lieux, on faisait venir les chanteuses pour tenir une cérémonie, etc. Donc, l'argent rentrait à la Pietà. Et elle se constituait une petite caisse, une cagnotte. Bon, et qu'elles, suivant comment se passait leur vie, soit quelqu'un voulait les épouser et elles quittaient donc la Pietà. Voilà, avec une petite dot. Mais attention, elles avaient l'engagement de plus jamais jouer. C'était un peu dur, hein, de ne plus jamais se donner en public. Et bon, et certaines qui restaient là continuaient leur vie dans le couvent de la Pietà. Voilà, donc il y avait différentes destinées. Et nous avons les violonistes étaient très 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 célèbres, mais les plus célèbres c'était quand même les chanteuses, hein, parce que le chœur était tourné rond. Il faut dire que elles avaient que ça à faire, jouer, répéter, s'organiser, préparer le concert. Donc elles n'étaient pas tenues par des problèmes matériels. Hein.
Oui.
Donc Vivaldi
pour
des tâches quotidiennes. Non, c'était tout réglé. Ah. Donc elles avaient atteint un niveau d'orchestre rare. Hein. Donc c'était formidable à aller les écouter. Voilà, alors pour vous montrer le, par rapport à toute l'évolution, je vous propose un concerto de Vivaldi, de la Chettra, c'est la, ça veut dire la lyre, qui est dédié à Charles VI de Habsbourg. Alors là, il y a une anecdote terrible. Charles VI de Habsbourg était allé à Trieste. Trieste, c'est pas très loin de Venise, hein. C'est au fond de la, voilà, dans l'Adriatique. Et l'empereur Charles VI était allé à Trieste. Et Vivaldi l'avait entendu et qu'il viendrait. Donc, il s'est rendu vite à Trieste et il a rencontré Charles VI, qui était un taciturne. Bon, il faisait des conseils avec ses ministres. Il disait trois mots. Bon, merci, au revoir. Bon, et il a parlé avec Vivaldi. Et ses ministres étaient furieux. Il a dit, nous, il a mis 10 ans pour nous dire tout ça, et il s'est pas arrêté de causer avec Vivaldi. Enfin, c'est un peu amusant, mais il était très, très mélomane. Ouais. Important parce que Vivaldi, après, ira finir sa vie à Venise, et il mourra à Venise un peu seul parce que l'empereur était mort, et on faisait le deuil pendant 6 mois. Hein. Voilà. Écoutons quand même un concerto de cette belle époque où Vivaldi était arrivé à sa grande maîtrise et ses instrumentistes aussi, puisqu'il fallait bien traduire sa musique, était arrivé à une grande expertise musicale. Écoutons un concerto de la Chettra.
Ce concerto de violon par les jeunes filles, hein, originellement, oui, qui entouraient Vivaldi à l'époque de cet Ospedale della Pietà.
Voilà, alors maintenant je vais vous proposer d'autres concertos. Ceux-là, ils ont été écrits bien avant celui-là, mais Vivaldi, qui avait quand même un peu parfois le sens des affaires, a fait éditer, ça s'appelle l'Estro Armonico, ce recueil, et il l'a porté, on ne sait pas s'il y est allé, à Amsterdam. À Amsterdam, c'était la grande plateforme musicale où on imprimait les œuvres. Et là, ça a été un succès fantastique parce que toute l'Europe a trouvé ces œuvres qui, bien sûr, quand ça passe à l'imprimerie, ça se multiplie. Et Vivaldi est devenu tout de suite une gloire pour les violons, les concertos, etc. Et surtout, ce recueil, l'Estro Armonico, a tombé sur la table d'un dénommé Jean-Sébastien Bach. Et Jean-Sébastien Bach, lui, a été ébloui par ses œuvres. Et en plus, il a trouvé donc une forme d'expression du violon parfaite. Et il a trouvé que Vivaldi avait eu un coup de génie. Il faisait un concerto allegro, andante, allegro. Eh bien, toutes les œuvres de Jean-Sébastien Bach et la plupart après de formations musicales suivront ce schéma. Allegro, andante, allegro. Donc, ça a marqué profondément Jean-Sébastien Bach. Et Jean-Sébastien Bach est tombé amoureux de toute cette œuvre de Vivaldi et il l'a transcrit. On a des œuvres de Vivaldi transcrites par Jean-Sébastien Bach pour l'orgue, pour le clavecin, pour tous les instruments qui existaient. Donc, il a profondément, là, marqué la musique. S'il a marqué Jean-Sébastien Bach, ce n'est pas rien, hein, marquer Jean-Sébastien Bach. Donc, je vous propose de l'Estro Armonico, un des premiers concertos qu'il a écrit pour quatre violons. Bach le retranscrira, lui, pour quatre clavecins. Écoutons ce concerto de Vivaldi pour quatre violons. Thank you.
Voilà donc l'Estro Armonico par Antonio Vivaldi. Voilà, une illustration est effectivement de ces différents types de structuration de...
Voilà, donc nous avons fait une première émission où l'instrument roi est quand même le violon. Mmh. Bien, nous verrons qu'il a continué à travailler le violoncelle, où il a écrit beaucoup pour le violoncelle, qu'il a substitué, je l'ai dit tout à l'heure, à la viole de gambe.
Oui.
Et ensuite, nous verrons dans une prochaine émission... les instruments, donc, à cordes pincées, le luth et la mandoline. Il a écrit pour ces...
Ce qui était un peu novateur à l'époque, là, les cordes pincées.
Oui, utilisé dans un orchestre. Et oui, avant, c'était un instrument individuel. Puis dans une future émission, nous verrons, alors cette fois, les instruments à vent, c'est-à-dire les flûtes, la flûte traversière, la flûte à bec, le hautbois, le basson, la trompette... Et le corps, elle jouait de tout. Hein. Donc nous avons encore un bon programme
à découvrir
à la Pietà, toutes ces jeunes filles qui nous ont régalé, parce que Vivaldi avait quand même des musiciennes très 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 capables.
Voilà, de la musique instrumentale, hein, c'était un petit peu on peut dire son fil conducteur, mais l'opéra, il n'en était pas en reste non plus.
Hein. Non, il a aussi bien aussi pour la musique sacrée, et puis l'opéra qui l'a rongé, et on parlera un peu de sa vie avec ces dames autour de lui, et qui lui ont posé quand même beaucoup de problèmes.
Oui. Voilà, ça fait partie aussi de la vie de ce mystérieux Antonio Vivaldi, qui finalement n'a pas fait beaucoup de messes dans sa carrière.
Non, il n'en a pas fait beaucoup.
Comme on le disait, il y avait les problèmes physiques, d'asthme.
Et puis, bon, il faut dire que quand on faisait un beau concerto, qu'il allait être joué, les gens venaient écouter le concerto plutôt que la messe. Hein.
Ouais. C'est ça. Ça nous relance, juste pour faire un parallèle avec ce qui se passait en France, on évoquait la musique en public qui a été assez tardivement effectuée en France avec le concert spirituel.
Voilà.
Et en Italie, ça a précédé.
Les concertos de Vivaldi ont été joués au concert spirituel.
Oui. Voilà. Mais en Italie, ça avait plus peut-être l'occasion pour le grand public d'assister à des concerts de musique classique qu'en France.
C'était quand même surtout au concert spirituel, on payait et on en voulait pour son argent, que ce soit de la qualité. Tandis qu'en Italie, c'était toujours dans les chapelles, c'était dans les palais, c'était quand même la noblesse ou la haute bourgeoisie qui s'intéressait à la musique.
Principalement.
Le peuple n'était pas peu concerné.
Entendu. Voilà. Merci beaucoup Michel, à très bientôt pour d'autres émissions de Antonio Vivaldi, à savoir que déjà vous pouvez retrouver sur la rubrique de l'autre côté de la musique, sur RadioRoyant.fr, des émissions qui sont consacrées à Vivaldi, notamment Qui êtes-vous Monsieur Vivaldi.
Qui êtes-vous Monsieur Vivaldi.
Merci pour toute cette richesse musicale Michel, à bientôt.